Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre émission spéciale consacrée aux 75 ans du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui donc, nous avons l'immense honneur d'accueillir Madame Maria Pejčinović-Burić, la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, ancienne vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères de Croatie. Madame Pejčinović-Burić dirige le Conseil de l'Europe depuis 2019. Son mandat de 5 ans arrive à son terme. Elle a annoncé qu'elle ne se représenterait pas pour un second mandat. Dans cet entretien exclusif divisé en deux parties, elle partage avec nous son regard sur les 75 ans du Conseil de l'Europe et sur ses 5 années à la tête de cette organisation européenne dédiée à la protection des droits de l'homme. Dans ce premier épisode, nous nous pencherons sur l'un des événements majeurs de ces dernières années, la guerre d'agression de la Russie en Ukraine et l'expulsion de la Russie du Conseil de l'Europe qui en a suivi. Bonjour Madame la Secrétaire Générale.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le Conseil de l'Europe dont vous êtes la Secrétaire Générale fête cette année ses 75 ans. Créé le 5 mai 1949 par 10 États, il est installé à Strasbourg et compte aujourd'hui 46 membres depuis l'exclusion de la Russie. Bien qu'il soit souvent éclipsé par l'Union européenne, le Conseil de l'Europe constitue un pilier essentiel de la construction européenne, œuvrant sans relâche pour la promotion de la démocratie, la protection des droits humains et l'état de droit en Europe. Donc, depuis sa création, le Conseil de l'Europe a adopté plus de 200 conventions internationales, dont la célèbre Convention européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, il fait face à de nouveaux défis, comme la guerre en Ukraine, l'intelligence artificielle et la protection de l'environnement en tant que droit humain. Alors, Madame la Secrétaire Générale, pour débuter cet échange, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est vraiment le Conseil de l'Europe et surtout ce qu'il n'est pas, parce qu'il est souvent confondu avec l'Union européenne?
Vous avez tout à fait raison et je peux comprendre cette confusion à première vue. Après tout, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe ont été créés d'une même idée de communauté européenne. Mais au-delà de ça, il y a deux symboles qui sont très importants, l'hymne européen et le drapeau européen, qui en fait était d'abord le drapeau européen. Il a été créé au Conseil de l'Europe en 1955. Et après, l'hymne européen, depuis des années 80, a été utilisé par le Conseil de l'Europe. Après, ces symboles ont été pris par l'Union européenne. Et en plus que les symboles qu'on partage maintenant, c'est aussi le fait que dans plusieurs langues, les deux institutions ont le même nom ou presque. Et donc, c'est de là où vient la confusion. Mais à part ça, le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale qui est vraiment dans ce genre très différente de l'Union européenne. Elle a pour but de promouvoir et protéger le droit de l'homme, la démocratie et l'état de droit, comme vous le venez de dire. Le Conseil de l'Europe a maintenant 46 États membres, tandis que l'Union européenne en a 27, mais en même temps, tout les membres de l'Union européenne sont les membres du Conseil de l'Europe. Il a adopté 223 traités dans tous les domaines, à l'exception de la défense, parce que le Conseil de l'Europe était créé en même temps que l'OTAN, et donc l'OTAN a quelques mois de plus que le Conseil de l'Europe, donc il a été créé au mois d'avril, ou même pas quelques mois, quelques semaines, et le Conseil de l'Europe au mois de mai. Et donc, la défense était exclue par verbatim de notre statut. Sinon, je crois, si ce n'était pas le cas, je crois que nos pères fondateurs auraient voulu que le Conseil de l'Europe pourrait s'occuper de toutes les questions. Donc, hors la défense, le Conseil de l'Europe est présent aujourd'hui même dans tous les domaines. La convention cadre, si on peut dire, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, mais peu de temps après, donc dans les années 50, et une autre convention très importante a été mise en place, c'est la Convention européenne de culture, donc qui est à la base en fait aussi de ce qu'on fait au Conseil de l'Europe, et aussi la Charte européenne des droits sociaux. Donc il y a des piliers qui font vraiment le socle de ce qu'on fait au Conseil de l'Europe.
Alors on voit le champ est très large et votre fonction est aussi très large. C'est, en quoi ça consiste donc la fonction de secrétaire général d'une organisation telle que le Conseil de l'Europe ?
La secrétaire générale, je suis que la deuxième parmi les 14 jusqu'à
après
maintenant.
Après Madame la Lumière.
Oui, après une excellente dame de la politique française, mais aussi politique européenne, Madame Catherine la Lumière. La secrétaire générale est la chef de l'organisation et bien sûr elle a pour attribution la gestion stratégique de l'organisation. Donc si vous voulez le dire au plus simple, c'est la voix et le visage du Conseil de l'Europe.
Un visage qui va être remplacé puisqu'il y aura une élection, on y reviendra au cours de cette interview. Revenons sur le grand sujet qui aura marqué le Conseil de l'Europe, mais pas que le Conseil de l'Europe. Donc après l'agression de la Russie en Ukraine, le Conseil de l'Europe a décidé le 16 mars 2022 d'exclure la Russie de son organisation. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise? On peut le comprendre, mais surtout, comment vous expliquez que d'autres organisations n'aient pas eu ce courage ou n'aient pas souhaité, comme l'OSCE ou autres, exclure la Russie de leur organisation?
Laissez-moi d'abord commencer par l'idée qui était derrière cette unité européenne qui, dans les idées de nos pères fondateurs, était telle de vraiment envelopper tout le continent, donc dès que ce serait possible d'avoir tous les pays européens dans le Conseil de l'Europe, ce qui au début n'était pas le cas, qui a changé notamment avec le mandat de Madame Catherine Lalumière dans fin des années 80, 90, début 90, où il y avait eu un grand élargissement du Conseil de l'Europe qui, à l'époque, a accueilli parmi les premiers pays aussi, la Fédération de Russie. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir tout le monde autour de la table et de se parler, de dialoguer et d'ouvrir des voies et la compréhension, mais toujours basée sur les principes fondamentaux, sur les libertés fondamentales. Et donc, c'était le départ. Le choix d'exclure un État membre, le plus grand à l'époque, d'ailleurs le plus grand pays du monde, n'était pas évident, mais le choix était inévitable à ce moment, avec son agression à grande échelle de l'Ukraine. La Russie a décidé de rompre avec vraiment les principes qui sont à la base du Conseil de l'Europe, et cette violation flagrante de notre statut a eu comme conséquence inévitable l'expulsion de la Russie de notre organisation. C'était une décision difficile, quoique je dois dire qu'elle était faite immédiatement. C'était vraiment moi-même, j'ai le jour même de l'agression, de la nouvelle agression, je dois dire, de la Russie, le 24 février 2022, j'ai fait une déclaration en appelant à la Russie de revenir à la voie diplomatique, de se retirer de complètement de territoire ukrainien. Et si elle ne le ferait pas, que le statut est assez clair ce qu'il faut faire. Malheureusement, ils n'ont rien fait. Le comité de ministres a réagi le 25 déjà. Donc, selon le statut, c'est d'abord, c'est pas immédiatement l'exclusion, c'est d'abord la suspension a demandé l'avis de l'Assemblée parlementaire, qui est un autre organe du Conseil de l'Europe, qui a réagi dans 2 ou 3 semaines qui ont suivi. Et donc la Russie, le résultat, c'était qu'elle était exclue le 16 mars 2022. Pourquoi les autres ne l'ont pas fait, c'est difficile à dire. Pour nous, le choix était difficile et mais très clair et juste.
C'est vrai que c'est allé très vite. Et quelles ont été les conséquences? Parce qu'il y a quand même des conséquences. Vous avez dit que c'est le plus grand pays du monde, mais c'est aussi le premier contributeur au budget du Conseil de l'Europe. Quelles ont été les conséquences de cette exclusion sur le fonctionnement de l'organisation et sur la coopération maintenant avec les 46 États? Est-ce que ça a eu des conséquences?
Vous avez tout à fait raison. La Russie, avec quatre autres États, était le grand contributeur. Donc, ce qui représentait à l'époque la contribution de la Russie était égal à plus ou moins le 12% de notre budget, ce qui est énorme. Mais nos États membres se sont mis d'accord immédiatement que d'abord, ils vont combler le vide pour le budget de 22. De 2022 et qu'on a repensé le budget pour le futur. En fait, il est vrai que les Russes pensaient que sans eux, d'abord, la mission du Conseil de l'Europe sera mise en cause parce que ce n'est plus la totalité de l'Europe. Et deuxièmement, il avait pensé aussi que le rapport financier va bousculer l'organisation. Ce qui s'est passé, c'est tout le contraire. Donc, c'est que nos États membres se sont mis d'accord immédiatement, donc qu'ils vont faire repenser le budget. Et je peux vous dire que depuis l'année dernière, on a pour la première fois depuis 17 ans une croissance réelle dans notre budget. Donc, ce qui s'est passé, c'est ça a marché dans le sens inverse. Donc, on a aussi eu entre-temps, et un peu aussi parce qu'il y avait ce changement géopolitique en Europe et dans le monde, on a eu seulement notre quatrième sommet des chefs d'État et de gouvernement à Reykjavik, qui a aussi, en fait, renforcé l'unité des États membres, y incluant le budget qui est plus important, plus grand. D'ailleurs, pas seulement parce qu'on n'a pas la Russie avec nous, mais parce que les défis que vous en avez mentionné quelques-uns au départ, qui sont de plus en plus grands. Donc, on a renforcé l'organisation. On a bien sûr mis en avant notre aide à l'Ukraine, mais on a aussi avancé les dossiers dans plusieurs autres domaines qui sont importants pour le présent et le futur.
Alors, pendant votre mandat, le monde et l'Europe ont été confrontés à des crises majeures, pas seulement la guerre d'agression en Ukraine, il y a eu cette pandémie mondiale. Pensez-vous que les institutions du Conseil de l'Europe ont su résister? On a parlé avant de l'Assemblée parlementaire, il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme a pu résister à tous ces événements. Comment avez-vous personnellement, là c'est plus une question pour vous, parce qu'on s'imagine que ces événements ont dû bouleverser votre travail en tant que secrétaire général, comment on gère au quotidien de telles situations?
Bah écoutez, je ne peux pas parler d'autres mandats de mes prédécesseurs, mais il est vrai que dans ce mandat, il y a eu des crises majeures, commençant par la pandémie que vous venez d'évoquer, mais aussi l'expulsion d'un État membre, la guerre sur le sol européen dans un de nos États membres, donc la crise, si vous voulez, qui les deux crises ont basculé la mode de vie, pas seulement dans notre continent, mais aussi en général. On avait pensé que dans le monde, tout allait se passer si bien, que le transport fonctionnerait toujours, qu'on peut travailler ou faire les provisions en Chine ou ailleurs sans aucun souci. Donc, je crois que les deux événements, pour ce qui est le continent européen, mais je crois aussi pour le reste du monde, il nous a montré que non, on ne peut rien prendre pour acquis, on ne peut jamais penser qu'on a des modes d'une manière de vivre qui restera toujours la même. Donc oui, c'était très, très difficile et je dois dire, en me présentant pour la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, je n'avais aucune idée, d'ailleurs je crois que non, personne n'en avait, qu'on allait envisager les deux crises majeures. Et je peux vous dire, pour ce qui est pandémie, on a immédiatement compris que oui, il y a un danger que personne n'est pas complètement apte ou prêt à réagir immédiatement parce qu'il n'y avait pas eu de telle crise, mais que les gouvernements ont d'abord la tâche à s'occuper de la santé et de la vie des citoyennes et des citoyens. Donc il faut protéger la vie. Et là, on était tous d'accord. On avait tous peur de ce qui allait se passer. On espérait les vaccins, par exemple. C'est peu connu que le Conseil de l'Europe héberge aussi une pharmacopée européenne qui est basée aussi ici à Strasbourg, d'ailleurs, qui fêtera d'ici quelques jours, 60e anniversaire, et qui a joué un rôle important pendant la pandémie, en effet, parce qu'ils ont enlevé les coûts de ce qui est la production des nouveaux médicaments. Donc, et mis à part qu'ils ont aussi donné certaines donations pour aider au quotidien de le ménage de ce crise, mais la pharmacopée a aussi donc joué un rôle. Mais à part ça, donc ce qu'on s'est dit et qu'on a vu, c'était que en sauvant les vies, les gouvernements peuvent être tentés ou le faire involontairement des infractions sur les libertés et les droits fondamentaux. Donc on a dit envoyer on appelle ça un boîte à outils à nos gouvernements en disant oui, vous avez le droit, y inclut la Convention européenne dans le droit de proclamer l'état d'urgence, donc par avec une procédure, mais il y a des choses qui ne peuvent pas se produire dans aucune circonstance. Donc on a essayé de leur dire faites ce qu'il faut faire pour sauver des vies, mais faites attention qu'en faisant ça, vous appliquez nos standards et nos règles. Donc c'est là où on a vraiment compris que le Conseil de l'Europe et les instruments que le Conseil de l'Europe a ont pu aider. Pour ce qui est la crise, la guerre et l'expulsion de la Russie, on s'est rendu compte aussi que voilà, on a voulu, on a pensé, on a fait tout pour ne voir plus jamais ça, donc de ne pas avoir une guerre de telle échelle. On a eu des guerres, malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale en Europe, mais celle qui se passe couramment en Ukraine, c'est de jamais vu. Donc voilà, et ce n'est pas le Conseil de l'Europe qui a échoué, c'est en fait un pays, un grand pays, qui a décidé de rompre avec les principes et les standards du Conseil de l'Europe. Et c'est ça qui est le résultat, c'est la guerre et la destruction. Donc, en fait, on s'est rendu compte aussi que si on veut que la prospérité pour nos sociétés, il faut veiller à ce que les standards soient toujours appliqués. Parce que à côté de la guerre, ou liées avec certaines choses qui ont mené à la guerre, c'est le recul démocratique qui a été présent depuis des longues années dans la Russie, mais pas seulement dans la Russie. Donc on s'est rendu compte qu'il faut renverser ce recul, et c'était une des décisions à Reykjavik aussi, comment travailler pour aider nos États membres de faire renverser ce recul démocratique qu'on voit en Europe. Donc voilà, on a chaque fois, je crois qu'on a appris la leçon, on est sorti plus fort qu'auparavant, mais il faut dire, il faut rien prendre pour l'acquis, il faut toujours veiller. Par exemple, il y a cette année, c'est l'année exceptionnelle des élections partout en Europe, dans le monde, et donc ce que je dis toujours, bien sûr, la démocratie, c'est d'abord, c'est d'aller aux urnes, de se présenter aux urnes. D'abord, il faut voter. Après, comment on vote, c'est le choix personnel. Mais si les gens ne veulent pas aller voter, ce qui n'est pas une chose qui ne se passe pas, bien sûr, après, il y a une minorité qui décide pour la majorité. Donc, si les gens veulent que la majorité emporte, mais vraiment la majorité de nos sociétés, il faut d'abord penser aller voter. Et bien sûr, il y a aussi toute question de de désinformation et tout cela. Donc, il y a beaucoup plus à travailler. Mais si on commence par les choses qui sont basiques, c'est de vraiment de ne pas s'abstenir des votes.
Alors, je reviens sur l'Ukraine, puisqu'il y a eu l'exclusion, mais il n'y a pas que eu ça. Quelle position et action le Conseil de l'Europe a-t-il entrepris pour soutenir l'Ukraine, puisque là aussi, maintenant, les événements sont là, et comment le Conseil de l'Europe entend aider l'Ukraine ?
Si vous voulez que je le dise en un mot, c'est la redevabilité. Du point de vue du Conseil de l'Europe, nous avons suivi cette idée de redevabilité, donc la responsabilité, dans un certain sens, de la Russie pour tout ce qui est les crimes et les dommages qui ont été faits à l'Ukraine. Donc cette idée de redevabilité était déjà présente dans ma déclaration de journée même où ça a recommencé le 24 février. Peu après, enfin, c'était aussi l'idée d'exclure la Russie, c'est dans le même cadre. Par exemple, l'aide à l'époque à la procureure générale, maintenant le procureur, ça continue, est venue déjà début mars 2022. Elle m'a appelée et elle a dit, écoutez, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a des gros dommages, mais aussi des dégâts, des infractions aux droits de l'homme, des crimes de guerre, etc. Mais ce qui est surtout important pour avoir cette redevabilité, c'est de recenser les preuves d'une manière qui sera utilisable par les cours nationaux ou les cours internationaux par la suite. Donc, c'était vraiment d'un jour à l'autre que mes collègues ont voyagé à la frontière avec l'Ukraine et l'Hongrie et qui se sont mis d'accord avec elle. Comment va-t-on faire? Et on continue à le faire. Le plus grand soutien qu'on a eu, et c'était en fait aussi une des grandes décisions du sommet de Reykjavik, c'était de mettre en place un registre de dommages. L'idée étant qu'il fallait trouver un moyen d'avoir un registre de dommages qui sera en place et effectif immédiatement. Donc si on allait passer par un traité international, ça aurait pris des années à le faire d'abord mettre mise en place et après la ratification. Donc au Conseil de l'Europe, on a un cadre juridique qui nous a permis et qui a été d'ailleurs accueilli maintenant par 43 États membres, tous les membres de G7 et l'Union européenne. Donc on a maintenant 44 membres de registre qui est la première partie d'un système global d'indemnisation. Donc le registre doit recenser les données, les requêtes, mais après il y aura et doit y avoir une commission et un fonds qui va alimenter une fois quand il soit décidé de comment et combien.
Ce sera certainement quand le conflit sera terminé, tout ça.
Mais il faut continuer. Par exemple, le registre est fonctionnel depuis le début de mois d'avril. Il est basé à La Haye, avec une antenne à Kiev, qui a été ouverte le 22 mars. Et maintenant, il y a plus que 2500 requêtes qui ont été déposées pour le c'est pas on a ouvert pour on s'est dit il faut voir une approche centrée sur les victimes. Donc d'abord on s'est dit ça doit être pour les dommages infrastructuraux qui doivent, par exemple, si on veut que les gens reviennent à la vie, à la normalité, ils doivent d'abord reconstruire les lieux où ils puissent habiter, ou si c'est le système des services publics, les écoles, etc. Donc on a commencé. Mais le registre va ouvrir aussi pour d'autres types de dommages, j'espère d'ici quelques mois. Donc on attend vraiment des milliers et des milliers de requêtes qui seront vraiment déposer là. Donc voilà. Et à part ça, on a aussi un plan d'action de résilience, relance et la reconstruction pour l'Ukraine, d'ailleurs le plus grand qu'on connaît au Conseil de l'Europe, avec une idée d'aider l'Ukraine pendant la guerre, et ce qui est admirable avec l'Ukraine et les autorités et son peuple, c'est qu'ils sont capables de mener cette guerre, mais en même temps de reformer le pays et de le préparer, comme vous le savez, ils sont devenus candidats et commencer les négociations avec l'Union européenne. Donc tout ce qui appartient au socle, soi-disant les critères politiques, ça provient aussi des critères du Conseil de l'Europe. Donc nous, on s'est dit, on l'a fait par le passé, on le fait couramment pour d'autres pays candidats à l'Union européenne, on peut le faire pour l'Ukraine, d'ailleurs pour la Moldavie on va voir encore pour la Géorgie, qui recule un peu dans
le Conseil de l'Europe a toujours été, on disait que c'était un premier passage avant l'Union européenne.
Voilà, c'est
donc,
ça.
Ça continue. Alors, on va aller assez vite sur la guerre en Ukraine. On a vu tout à l'heure qu'elle a transformé, le Conseil de l'Europe. C'est une question que l'on a vue. Si vous avez quelque chose à peut-être ajouter, en quoi peut-être cette guerre a vraiment fondamentalement changé le Conseil de l'Europe? Hormis le fait qu'elle a ressoudé, on a compris qu'elle a ressoudé les États.
Oui, tout à fait. Ah bah, je viens de le dire, je crois que c'est un rappel pour nous tous que les droits, nos droits et nos libertés on a presque oublié qu'ils existent parce qu'elles sont en place, on les prend pour la normalité. Donc ça nous a rappelé, nos libertés et droits ne doivent jamais être donnés comme acquis. Donc, et lorsqu'un État rompt avec ses valeurs et ses principes, les conséquences sont les plus terribles qu'on ait connues par le passé, la guerre et la destruction. Donc au Conseil de l'Europe, nous devons travailler sans relâche pour renverser le recul démocratique.
C'est ainsi que se termine la première partie de notre échange avec Maria Pejcinovic-Buric, la secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Retrouvez-nous prochainement sur votre radio pour la seconde partie de cet entretien exclusif. À bientôt. Thank you.